Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Bonjour et bienvenue à l'actualité économique du jour. Louis Gallois, en 2004, au sujet du climat social à la SNCF, disait « Oh, 8 années passées à la tête de la SNCF, ça vous vaccine contre l'optimisme. La grève aura bel et bien lieu, on ne connaît pas encore le trafic. Cette grève est-elle justifiée ?» Quand on sait que les contrôleurs dont il est question ont vu leur rémunération augmenter de 20% à peu près en 3 ans, quand l'inflation a fait plus 13,5%. Le chômage augmente, pas très vite, mais il augmente. Le taux de chômage publié par l'INSEE hier le confirme. Le gouvernement croit toujours, je crois qu'il est le seul, mais il croit toujours à son objectif de 5% de chômage en 2027. Et le moyen pour y parvenir serait de durcir à nouveau les règles de l'assurance chômage. Est-ce qu'il faut mener des politiques pro-cycliques, c'est-à-dire durcir au moment où ça va mal? C'est une vraie question. Deux appels à la vigilance auprès des banques européennes en l'espace de 48 heures. Le premier de la BCE, le second hier du superviseur bancaire de la zone euro. Alors, ce sont des appels à la vigilance un peu flous. Préparez-vous à, on ne sait pas vraiment quoi, mais en tout cas, il y a des appels à la prudence, à augmenter les fonds propres, à assurer ses liquidités, à assurer ses arrières. Est-ce qu'il y a derrière ces appels des inquiétudes particulières à nourrir? Et puis, j'aimerais qu'on réagisse à cette décision du Conseil d'État qui demande à l'ARCOM, le gendarme des médias, et notamment de la télé, de veiller au pluralisme et à l'indépendance de l'information après un recours qui a été engagé par l'ONG Reporters sans frontières contre CNews. Voilà, alors c'est assez. L'ARCOM ne nous dit pas comment elle va faire, notamment pour traquer les opinions des différents intervenants, voire des chroniqueurs. Mais enfin, il y a un sujet derrière. Guillaume Dard, bonjour.
Bonjour.
Président de Montpensier Finance, société de gestion et de conseil en investissement, vice-président de l'AFG, l'Association française de la gestion financière. Jean-Marc Daniel, bienvenue.
Bonjour.
Professeur à l'ESCP, vous avez publié Redécouvrir les physiocrates chez Odile Jacob et vous êtes membre du comité éditorial de Pour l'écho avec à la une du numéro de février. Crise du logement, à quand la fin des travaux? C'est le numéro du mois de février de Pour l'écho. Et je vous rappelle le hors-série, 40 idées reçues démontées par les chiffres, hors-série qui sort tous les 3 mois, je crois.
Absolument.
Voilà. Et bonjour, Christian Parizeau.
Bonjour.
Économiste et conseiller auprès d'Aurel BGC. Je vous donne quelques chiffres, Guillaume, je vous laisse réagir. Les contrôleurs, les agents SNCF ont obtenu 400 euros de prime de la valeur pour le mois de mars. Prime de partage de la valeur. Après 400 euros au mois de décembre, l'indemnité de résidence, quand ils vivent dans des zones où le loyer ou le logement est tendu, augmente de 30 à 50% avec un minimum de 100 euros. Il y a eu 3000 promotions, 1000 embauches, dont 200 contrôleurs. Et actuellement, les rémunérations ont augmenté de 20% l'espace de 3 ans quand l'inflation fait 13,5%. Est-ce que la grève qui va nous tomber dessus ce week-end est justifiée?
Alors, je vais un peu essayer d'élever le débat.
Ah ben, élever le débat. Moi, je suis très terre à terre. Hein.
Mais et vous le faites bien.
Ah ben, voilà.
Train
ou pas train?
Voilà.
Bon.
Le sujet chemin de fer, il est très complexe. Parce que pendant les 100 premières années, grosso modo, de 1830 à 1930, la nationalisation de la SNCF, c'est 1938, les chemins de fer, ils appartenaient à des compagnies privées.
Oui, absolument.
Et l'État intervenait dans les réglementations. C'est-à-dire que ce qu'on voulait, c'est qu'il n'y ait pas 3 lignes de chemin de fer en parallèle les unes les autres. Donc, il a essayé de réguler. Et la voiture, ça n'avait pas encore vraiment, ça n'était pas un moyen de masse. Et donc, le chemin de fer était un business qui fonctionnait à peu près. Néanmoins, dès le début du XXe siècle, ça a été plus difficile en termes de rentabilité. Et en France, mais il n'y a pas eu vraiment qu'en France, on a fini par nationaliser les chemins de fer en 1938. Et c'était une concentration des luttes sociales. J'ai pas besoin de vous redécrire le film La Bête humaine de Jean Gabin. Et donc, ça a été un moyen de dire, de montrer la souffrance. Bon, aujourd'hui, évidemment, on a moins de trains qui fonctionnent au charbon. Ce serait pas très correct en transition climatique. Et donc, on est face à un système nationalisé. Et le transport, c'est l'endroit des luttes sociales, très traditionnellement. On n'a pas besoin non plus de rappeler 1995 et la phrase de Chirac, on essaye de bouger les choses, il bloque tout. Donc c'est un lieu très complexe. Alors, je vais laisser Jean-Marc après parler de la privatisation. Donc,
on est face... déjà compris ce que Jean-Marc allait dire.
On est face à un système où on a d'ailleurs distingué, comme dans d'autres domaines, la propriété des infrastructures et les compagnies qui utilisent les infrastructures.
L'activité commerciale et l'activité infrastructure.
On ne peut pas dire qu'il y a un enthousiasme inouï des cheminots face à l'idée qu'il y ait de la concurrence. Alors, elle commence, elle sera... Comme toujours, elle sera vertueuse, mais il y a quand même beaucoup moyens de blocage parce que il y a quand même une certaine proximité entre ceux qui gèrent les infrastructures et ceux qui gèrent les moyens de transport eux-mêmes. Alors, c'est pour ça que donc, je n'ai pas vraiment répondu à votre question. Parce
c'est ce que j'allais vous dire, mais bon.
Mais quand même, ça peut être un signal parce que ça part toujours de là, de... Et puisqu'on en parle à longueur d'émission, il y a une demande d'augmentation du salaire net dans ce pays qui est très forte. Le salaire net, là aussi, ça fait 15 ans qu'on le dit, il est très bas en moyenne parce que les charges sont très très fortes. Si vous prenez le salaire brut, 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 c'est-à-dire le prix auquel le travailleur vend sa force de travail, il est assez élevé en France. Simplement, son net est trop faible. Donc, est-ce que c'est un signal d'un printemps social qui pourrait s'étendre, puisqu'on voit bien que, vous avez vu les sondages hier, 73% des Français veulent être augmentés.
Après, moi, effectivement, la question que je posais, c'était par rapport à la grève qui nous pointe même pas au nez. Elle a lieu, la grève, c'est sûr. Le patron des SNCF Voyageurs disait ce matin sur BFM TV, on espère qu'on aura un train sur deux. Donc c'est même pas certain.
Toute position, toute personne en position de monopole a tendance à
utiliser. Oui, et puis de toute façon, même si la concurrence, c'est vrai, s'est installée entre Paris et Lyon avec Trenitalia, la Renfe commence à grignoter quelques lignes vers Lyon et vers Marseille, mais c'est une concurrence limitée et on n'aura pas une concurrence...
Et qu'on ne redise pas l'Angleterre, ça ne marche pas parce que rien n'est parfait dans aucun système de chemin de fer, mais enfin, si vous avez pris le train en Angleterre, ça marche plutôt pas mal.
On n'aura jamais 25 compagnies en concurrence face à la SNCF sur le territoire français. C'est évident.
L'exemple anglais utilisé à longueur,
mais à longueur de journée mais
me semble fallacieux.
Je ne sais pas s'il est fallacieux, mais ils ont fait machine arrière.
Vous avez pris le train en Angleterre ?
Oui, c'est catastrophique.
Comment ça ?
J'ai pris le train il y a quelques années.
En quelle année ?
J'ai pris le train en Angleterre. Il doit y avoir 5 ans que ça a dû se produire, un peu moins même. Ce n'est pas effectivement très très brillant. Objectivement, c'est pas très très bien. Quand vous voulez prendre des trains de banlieue qui partent de la ville de Londres pour vous rendre, c'est pas...
Il y a des gens, regardez le nombre de gens qui prennent le train tous les jours.
Je vais pas faire la comparaison avec la Grande-Bretagne. Jean-Marc, c'est justifié ou pas de se mettre en grève, considérant que la liste d'éléments que je viens de citer n'est pas suffisante?
Oui, alors, juste une remarque préliminaire. Moi aussi, j'ai pris le train en Grande-Bretagne, mais dans les années 70. Oui,
déjà. Je l'ai pris pas mal dans les années 80.
Quand il était public, oui. Je pense que les gens qui critiquent le système britannique sont des gens jeunes qui n'ont pas connu le système des années
60. Du système français.
Et donc, le seul moment où les trains partaient à l'heure, c'est quand il y avait des matchs de foot parce que le conducteur voulait être sûr d'être devant son poste de télévision au moment où commençait le match. Et il partait même en avance. Il y avait des gens qui loupaient le train parce que le train partait à l'avance. Donc, cette anecdote étant racontée, je pense que dans ce qui se passe, effectivement, vous avez d'abord une entreprise où on parle de gréviculture et tout ça.
À nouveau.
Vous avez donc la statistique que je rappelais tout à l'heure, dit que en France, par salarié, on perd 0,1 journée par an du fait des grèves. À la SNCF, c'est une journée. C'est-à-dire que les employés de la SNCF sont 10 fois plus en grève que la moyenne nationale. Donc il y a un vrai problème dans cette entreprise. C'est-à-dire que le problème, c'est à la fois le sentiment d'une forme d'impunité quand on se met en grève, et puis le sentiment qu'il y a quand même un malaise. Et je pense que ce qui se passe en ce moment est une réponse syndicale traditionnelle. On voit les syndicalistes, on voit qui viennent nous dire, il faut embaucher, il faut augmenter les salaires. Quand vous écoutez les contrôleurs, vous apercevez que, de même que les enseignants, leur problème c'est de moins en moins le fait d'être mal payé, c'est de plus en plus le fait d'être agressé dans les trains.
Pas dans les TGV, il n'y a pas de...
Écoutez, il y a eu...
C'est pas quelque chose qui remonte des contrôleurs de TGV qui aujourd'hui sont les mieux payés.
Vous prenez
le reste du réseau, là, oui.
Vous prenez les gens qui font les TER et les intercités.
Oui, non, mais c'est autre chose.
Écoutez, il y a eu plus de 5000 agressions l'année dernière, près de 6000 agressions. Il y a eu 900 contrôleurs qui ont été obligés qui ont eu droit à un arrêt de travail à la suite d'agressions. Et quand vous les écoutez, les responsables syndicaux, le contrôleur de base, il dit bien que, de plus en plus, quand il rentre dans le train, il a peur. Et donc, je pense que c'est la même chose pour les enseignants. Quand les enseignants se sont mis en grève la semaine dernière, ou il y a 15 jours, il y avait des revendications traditionnelles, et puis, il y en a qui ont dit, écoutez, on n'est pas respecté, on n'est pas respecté par nos autorités, mais on n'est pas respecté par les parents, on n'est pas respecté par les élèves. Et donc, d'accord. Il y a un problème qui est un problème
de sécurité.
De sécurité, de réhabilitation du statut de ces agents sous la forme d'une forme de respect minimum. Et donc, je pense qu'une des réponses, ce sera pas forcément des salaires, mais la prise en compte des éléments dans la qualité du travail. Je pense que l'enjeu de plus en plus dans la société dans laquelle nous sommes, c'est la qualité et les modes de fonctionnement du travail, plus encore que la rémunération du travail en tant que telle.
Vous avez vu dans l'enquête des conseillers du commerce extérieur sur l'attractivité de la France, la nouveauté qu'on n'avait jamais vue, c'est que l'item qui se dégradait le plus, c'était la sûreté aux personnes.
Oui.
Quand on est en Asie notamment, et quand on regarde la France, les médias ont probablement une part de responsabilité, la sûreté aux personnes commence à inquiéter. Oui. Généralement, on parlait du coût du travail, on parlait du code du travail, c'est plus ça.
Hein. Les attaques de tourisme à l'entrée du tunnel qui vient de l'autoroute du Nord vers Paris se multiplient de nouveau.
Sur ce que vous dites, il y avait 1000 embauches prévues, dont 200 contrôleurs, et on a ajouté 100 embauches d'agents de sécurité. Donc c'est un sujet qui a été un peu entendu, mais les principales revendications, ça porte pas sur les agents de la sécurité,
ça porte sur la prise en compte... C'est la revendication exprimée par les syndicats.
Oui.
Moi, je vous dis, il y a un collectif, les syndicats relaient un collectif. Vous dites ce que prend ce collectif. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est que les syndicats, mais c'est la même chose pour les enseignants, les syndicats sont incapables de formuler les véritables attentes des gens qui sont supposés représenter. Ils répondent par le message traditionnel, plus d'emplois, plus de rémunération. Or, c'est pas ce qu'attendent les agents sur le terrain. Et toute dernière remarque, nous sommes pour le 6e anniversaire du rapport Spinetta. Il a été publié le 15 février 2010.
Oui, je vous le rappeliez ce matin, je vais le ressortir d'ailleurs
et
pour
donc,
voir.
J'invite les auditeurs téléspectateurs à relire ce rapport. Ça commence par une citation de Raoul Dautry, donc qui a été à la fois un grand gestionnaire de réseau de chemin de fer à l'époque où c'était privé, puis ensuite il a été le fondateur d'Air France, et qui dit bien qu'un des problèmes, il dit dans la citation, qu'il y a les chemins de fer doivent penser en termes de concurrence. Concurrence entre compagnies et concurrence entre modalités de transport. Mmh. Et que si les chemins de fer n'arrivent pas à se raisonner en termes de concurrence, eh bien ils vont vers de graves crises. Et donc je crois que les chemins de fer doivent surtout se raisonner en termes de concurrence. Concurrence entre compagnies ferroviaires et concurrence entre modalités de transport. On a, par rapport à la période de Raoul Dautry, on a mis des autobus avec la loi Macron sur les autoroutes. Par rapport à cette période-là, question s'est posée sur les avions.
Une chance formidable à SNCF, c'est que le transport aérien s'est effondré en termes de qualité, et que donc un TGV, c'est plutôt mieux que de prendre pas le nom de la compagnie, la compagnie low-cost utilisée en France, dont le service est assez médiocre.
Il y a des endroits, compte tenu des contraintes physiques, où installer de la concurrence est plus facile qu'ailleurs. Sur la route ou dans les airs, c'est plus simple que sur des sillons métalliques.
Mais justement, ce que dit Raoul Dautry, ce qu'il dit bien, c'est que la concurrence, c'est pas uniquement la concurrence entre compagnies de chemin de fer. Et c'était un des acquis de la loi Macron, c'est quand on a mis des bus sur les autoroutes, c'était pour généraliser la concurrence. Je rappelle aussi, encore une fois, que Air Inter était propriété de la SNCF pour qu'il n'y ait pas de concurrence aérienne à la SNCF, et il était interdit de mettre des bus sur les autoroutes pour qu'il n'y ait pas de concurrence à la SNCF. Et donc là, la SNCF va devoir s'adapter à une double concurrence, la concurrence d'autres compagnies ferroviaires et la concurrence d'autres modalités de transport. Et ça, c'est une bonne chose. C'est la concurrence qui portera à la SNCF les solutions dont elle a besoin.
La clientèle des bus et la clientèle des TGV, c'est juste pas du tout la même.
Des TER et des intercités...
Ouais, mais alors, les liaisons de bus qui concurrence les TER, elles me sautent pas aux yeux, objectivement.
Pourtant, quand vous regardez la fréquentation, vous apercevez que...
Vous avez vu beaucoup de lignes de TER où vous avez une ligne de bus qui est là pour faire concurrence aux TER?
Ah, mais la plupart des grandes... Les relations de bus, que ce soit Blablacar, qui était l'ancienne...
Non, mais c'est autre chose, Blablacar.
Mais non, mais Blablacar... Il y a des bus Blablacar qui étaient les bus de la SNCF.
Oui, ça n'a pas duré longtemps.
Mais la SNCF a abandonné, mais Blablacar et Blablacar gagnent de l'argent en concurrençant immédiatement les lignes de chemin de fer.
Vous voulez réagir là-dessus ou on avance sur Parizeau?
Non, juste dire un petit mot, moi je
parce que vous m'élevez le débat, mais moi je le mets très très bas le débat.
Non, mais je tiendrai surtout un élément, c'est que c'est plutôt un signal que quand même il y a une vraie pression salariale aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est que quand on regarde, même au niveau de l'Europe, il n'y a pas que la France où il y a des grèves de train. Je vous rappelle qu'il y a eu des grèves récemment en Allemagne aussi.
Ah oui, une grosse grosses grèves.
Que la dernière statistique d'emploi en Angleterre a montré qu'il y avait un nombre de jours record perdus à cause des grèves dans le système hospitalier anglais sur le mois passé. Donc on voit qu'il y a quand même une montée des revendications salariales et c'est assez logique. Hein, c'est-à-dire que les ménages européens ont subi de plein fouet l'inflation. Il n'y a pas eu d'ajustement des salaires à l'inflation et c'est maintenant qu'on commence à voir les vraies revendications. Donc, alors après, je vais pas être méchant, mais on comprend un peu pourquoi les banquiers centraux sont très prudents, parce que quand ils parlent de risque de boucle prix salaire, parce que c'est vrai que c'est avec beaucoup de retard, mais on commence à avoir véritablement aujourd'hui un risque de hausse des salaires beaucoup plus rapide que l'inflation. L'inflation ralentit, certes, mais c'est aujourd'hui que les gens revendiquent le plus. Et je trouve que ces revendications qu'on voit à travers la SNCF, c'est quand même un signal très fort au niveau social. Et encore une fois, entre les agriculteurs, entre les grèves dans les transports, entre tout ça, on voit que c'est quand même une revendication qui touche pas que la France et qui s'inscrit globalement sur un impact très fort de l'inflation qu'on voit aujourd'hui.
C'est un bon sujet, savoir si le mot salaire sera le mot de l'année en Europe.
Ça explique pourquoi aujourd'hui on a quand même un vrai problème social et on voit que cette inflation est peut-être finie dans les chiffres. En tout cas, elle est en train de rapidement retourner, mais on le voit que dans les mentalités, c'est maintenant qu'on a le choc inflationniste et c'est là qu'on voit qu'il y a la perception de perte de pouvoir d'achat qui joue à plein aujourd'hui.
D'ailleurs, vous avez vu le chiffre de la DARES qui nous a indiqué qu'en 2023, les salaires avaient augmenté en France plus vite que l'inflation, finalement.
Oui, mais c'est pas perçu comme ça.
Mais c'est là que c'est intéressant.
Il y a aucun problème. On voit qu'il y a toujours un décalage entre la perception des choses et la réalité des chiffres.
Jean-Marc, Alice Daniel.
Je maintiens ce que je disais. Je pense que quand vous regardez les revendications du NHS dont on vient de parler, c'était là aussi, c'était le fait qu'on est agressé maintenant dans les hôpitaux, aux urgences. C'était le fait qu'ils ne sont pas pris en considération. C'était le fait que les médecins sont menacés dans leur vie quotidienne. Je pense que la vision traditionnelle qui consiste à dire les gens ont besoin davantage de salaire, c'est passé à côté du problème. Et que on n'éteindra pas cette forme d'angoisse et de revendication uniquement en augmentant les salaires.
À mon avis, c'est ce que vous dites, et c'est très certainement parfaitement renseigné, la question du salaire aussi. Enfin, j'ai vu, je ne sais plus qui a fait cette enquête cette semaine, où la préoccupation numéro un, c'est quand même le salaire. Voilà, c'est ce qui ressortait en premier de cette enquête IFOP, je crois, qui a été menée, mais je ne sais plus pour qui. Vous vouliez rajouter, Guillaume Dard. Le chômage. Le chômage remonte. Alors, est-ce qu'il y en a un qui croit au 5% 2027?
Il y en a un qui ne croit pas.
En 2027. Non, qui croit au 5% de chômage, ce qui est actuellement, pour le gouvernement, considéré comme le plein emploi à la française, on va dire.
Jean-Marc nous dira exactement où on est positionné dans le cycle économique. Alors, parce que 24, 25, 20, enfin d'ailleurs sur 27, c'est important parce que ce sera l'année électorale.
Oui, bah oui,
donc,
c'est pour.
Il y a une statistique qui est très forte. Le parti au pouvoir, entre guillemets, gagne les élections si le chômage baisse ou dans les 12 derniers mois. Et, enfin, en tout cas, les pairs, assurément,
si le chômage
remonte. C'est ce qui s'était passé pour Lionel Jospin, qui avait eu des années, qui avait eu la chance de connaître des années économiques glorieuses dans le cadre de la conjoncture internationale et dans la conjoncture française. Et ça s'est renversé en 2002. Très rapidement très rapidement, et il a perdu. Et donc, ce sera un enjeu clé. Moi, je pense qu'on va avoir une remontée du chômage dans les deux années à venir, parce que il y a un consensus chez vos amis économistes qui disent que, par exemple, il faut supprimer l'apprentissage des bacs plus 3.
C'est pas un consensus, c'est une question qui est posée.
Quasiment un consensus. Ça me semble aller un peu dans votre théorie de la smicartisation. C'est-à-dire que si vous avez fait des études, vous allez trouver un job. C'est pas si vrai. C'est pas si vrai. Il y a tellement maintenant de gens qui ont bac plus 3 à bac plus 5 que le combat pour avoir un bon job, il est aussi fort qu'ailleurs. Et donc l'apprentissage dans cette zone-là, il est un point clé. Mais si jamais on enlève ce type de mesure, vous allez avoir une remontée du chômage. Si on ne règle pas tous les sujets de la construction, là, bien évidemment, il y aura un effet en chaîne. Et troisièmement, si la Banque Centrale Européenne ne redétend pas sa politique monétaire rapidement, on va avoir une année 24-25 qui seront assez médiocres. Alors après 26-27, c'est une autre histoire.
On peut avoir un débat pour savoir s'il faut réduire le champ de l'apprentissage. Ce débat, il a été posé par un rapport qui a été réalisé par Bruno Coquet au mois de juin sur le fait que ça avait coûté quand même énormément d'argent et qu'on pouvait peut-être obtenir des résultats assez proches en dépensant moins. C'est plus d'ailleurs un débat d'économie budgétaire que de volonté d'exclure telle ou telle catégorie de l'apprentissage.
Moi, je dirais qu'il y a surtout un élément pour regarder maintenant, c'est est-ce que la croissance va être aussi riche en emplois ou l'absence de croissance que par le passé? Parce que là, on est quand même sur une période, on sort d'une période assez exceptionnelle où on a eu d'importantes créations d'emplois. Maintenant, on est sur une économie qui stagne, mais on n'est pas sur des ajustements d'effectifs. Et donc, aujourd'hui, on est quand même sur une vraie résilience de l'emploi. La vraie question aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce qu'on a fait une parenthèse dans les relations passées? C'est-à-dire qu'avant, il nous fallait véritablement une croissance forte en France pour véritablement avoir des créations d'emplois et permettre enfin une diminution du taux de chômage. Ou est-ce qu'on est sur des changements de mécanisme qui fait qu'aujourd'hui, avec une très faible croissance, on peut très vite augmenter les effectifs, très vite avoir un impact sur l'emploi et permettre une décrue rapide du taux de chômage. Et là, aujourd'hui, ce qui semble voir vers les dernières statistiques, c'est que quand même, on est en train de fermer cette parenthèse.
J'ai l'impression.
C'était le post-Covid. Vous vous souvenez, au moment du Covid, on a dit les entreprises européennes vont garder leurs équipes parce que sinon vous avez une destruction de connaissances, de know-how, de fonctionnement.
Oui, mais
les Américains, comme d'habitude, ne l'ont pas fait. Les Américains ont licencié massivement pendant la période de Covid et ont réengagé à une vitesse absolument incroyable. Donc je pense que le Covid qui a été vécu à la française, c'est-à-dire avec une atténuation, avec le quoi qu'il en coûte d'un côté, la volonté des entreprises d'être bonnes citoyennes, on fait que il y a eu
une parenthèse.
Parfaitement ce
mais non, mais c'est une parenthèse.
C'est une parenthèse.
Mais c'est certainement
et
ça.
Et qu'une partie de la baisse de productivité, elle s'explique de cette façon-là.
On marque une pause. On a fait plus 6% en nombre d'emplois créés pendant en 4 ans quand l'activité faisait plus 2. Donc il y a eu effectivement un phénomène. On va poser la question, est-ce que c'est le bon moment pour durcir à nouveau les conditions d'assurance chômage? C'est à peu près la seule piste actuellement évoquée par l'exécutif. À tout de suite.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.
Est-ce la bonne décision? Trop tard pour moi. Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Guillaume Dard, président de Montpensier Finance et vice-président de l'Association française de gestion financière, de la gestion financière AFG. Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP, qui a publié Redécouvrir les physiocrates chez Odile Jacob. Il est membre du comité éditorial de Pour l'écho avec à la une du numéro de février, crise du logement, à quand la fin des travaux? Et le hors-série est toujours disponible sur 40 idées reçues démontées par les chiffres. Et Christian Parizeau, économiste conseiller auprès d'Aurel BGC. Est-ce que c'est le moment, Jean-Marc, de durcir l'assurance chômage? On vient de le faire 2 fois en l'espace de 2 ans et demi. Il faut en mettre une nouvelle couche. Visiblement, c'est la seule piste aujourd'hui envisagée par le gouvernement.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que ce soit la seule piste envisagée par le gouvernement. Dans le lien qu'il y a entre la croissance et l'emploi, il y a toute une période où on faisait un lien en disant c'est la croissance qui crée l'emploi. C'était la loi d'Okun, on apprenait ça à nos étudiants. Or, non seulement sur les politiques qui sont menées, mais aussi sur les théories économiques qui sont maintenant émises par les chercheurs, il y a cette idée qu'en fait, il faut revenir à une vision plus traditionnel et plus 19e siècle où c'est parce qu'il y a de l'emploi qu'il y a de la croissance. C'est-à-dire la croissance, elle ne tombe pas comme la MAD, elle ne tombe pas d'une décision extérieure, elle ne tombe pas d'une politique budgétaire expansionniste. La croissance, elle est le fruit du travail de gens qui se lèvent et pour aller travailler au petit matin, et donc elle est le fruit effectivement de l'emploi. Et donc la conséquence de ça, c'est pour favoriser l'emploi, il faut agir non pas sur la croissance de façon extérieure, mais sur la vie quotidienne des entreprises. Et donc en ce sens, les mesures qui sont prises sur le chômage, c'est d'agir sur la vie quotidienne, non pas des entreprises, mais des salariés. Je crois qu'il faut aller maintenant vers la vie quotidienne des entreprises. C'est-à-dire, on a parlé des charges. Il y avait tout ce programme d'allègement des impôts des entreprises au travers des impôts de production. Et donc ça, c'était effectivement la capacité...
Il n'a pas été abandonné, il a été lissé.
Il a été lissé, mais enfin, l'objectif, c'est 2027. 2007. Donc, il faut se souvenir quand même que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Et donc, je pense que par-delà l'action sur les salariés, la mobilité des salariés, les motivations des salariés, la formation des salariés, qui est aussi quelque chose que l'on met assez souvent en avant, je pense qu'il y a un véritable enjeu si on veut atteindre le plein emploi.
Donner de l'air aux entreprises.
De l'air aux entreprises. Donc,
c'est politique de l'offre à tout.
Après, dernière remarque, sur les 5%, le chômage en général, là aussi, on apprend ça à nos étudiants, il y a le chômage conjoncturel, le chômage structurel et le chômage frictionnel. Et donc, le véritable enjeu, le chômage conjoncturel, normalement, c'est la politique contracyclique qui le gère. Le chômage frictionnel, c'est le plein emploi. Donc, l'enjeu, c'est le chômage structurel. Et je crois que plutôt que des objectifs en taux de chômage en tant que tel, il faut véritablement se donner des objectifs dans une analyse de ce chômage structurel, de lutte contre ce chômage structurel. Et là, clairement, par-delà la tarte à la crème de la formation, ce qu'on voit bien en France, c'est le fait que le chômage des jeunes est un des plus importants. Et je rejoins ce qu'a dit Guillaume, c'est-à-dire que s'attaquer à l'apprentissage parce que c'est trop cher, la vraie question qui se pose, c'est est-ce que si on récupérait ces sommes, on les utiliserait mieux? C'est-à-dire que est-ce que ça coûte trop cher par rapport à ce que ça rend? Est-ce qu'il faut le supprimer en tant que tel? Je pense que la vraie, d'ailleurs c'est la réflexion de Bruno Coquet, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas mieux utiliser ces sommes? Mais il n'y a pas l'idée que ça a été négatif, il y a l'idée que c'était pas forcément l'emploi le plus pertinent des sommes qui ont été consacrées à ce...
En tout cas, vous me dites, Jean-Marc, qu'une troisième étage de réforme d'assurance chômage, ça vous semble pas être l'idée, la martingale après, gagnante.
Ça suffira pas.
Après cette brillante démonstration top-down de Jean-Marc, moi je voudrais être bottom-up. Qu'est-ce que vous penseriez, Nicolas, d'un contrat d'assurance que vous êtes obligé de souscrire? Vous n'avez, imaginons que ça soit une assurance IARD, vous avez cotisé, vous cotisez toute votre vie.
Accident, risque divers, IARD.
Voilà. Vous n'avez jamais un dégât. Et puis, tout d'un coup, pas de chance, un peu à la fin de, je sais pas, après avoir cotisé pendant 40 ans de façon obligatoire, tout d'un coup, vous avez un accident, vous perdez votre job. Et vous dites, alors là, c'est justement le moment où j'ai payé ma prime rubis sur l'ongle de façon très forte pendant 40 ans.
Et de façon obligatoire, faut le
rappeler. De façon obligatoire, sans concurrence, il n'y a aucun choix, et on me l'enlève. Et au fond, ce n'est pas un impôt. Alors il faut changer et dire la règle, c'est juste, c'est un impôt, et c'est l'État qui décide. Mais à partir du moment où c'est une cotisation obligatoire payée par l'assuré, je trouve que changer le contrat en cours de route,
ça se tient,
n'a pas de sens. Alors après,
non, ça se tient.
La deuxième chose, c'est qu'on peut dire le contrat a été mal calculé et au fond, d'abord, il y a plein de gens qui profitent du système, qui au lieu d'avoir cotisé 40 ans sans tirer sur leur, enfin sans profiter du bénéfice du remboursement du contrat d'assurance, s'en servent tout le temps. Et donc, est-ce que c'est un sujet du coût global ou est-ce que c'est vraiment ce sujet pour désinciter? Et donc, c'est ennuyeux, au fond, dans les mesures, c'est que, on comprend bien l'idée, c'est de désinciter les personnes à se servir de façon un peu abusive.
Mais ça a déjà été fait.
Un peu l'idée derrière, de dire, il y a des gens qui s'en servent de façon abusive, et donc on va essayer d'enlever les clauses abusives.
Non, mais ça, très bien. Bon.
Mais de l'autre côté, alors il y a des systèmes qui existent dans d'autres domaines. Je parlais avec un de mes amis qui est chirurgien en Australie. C'est pas sur le chômage, c'est sur les congés maladie. Je lui disais, est-ce que tu as une bonne assurance comme chirurgien, etc. Il dit, je n'ai plus besoin d'assurance parce que j'ai travaillé pendant 40 ans et je n'ai jamais eu un jour d'absence maladie. Et donc, le système considère que j'étais un bon élève et donc que maintenant, s'il m'arrivait quoi que ce soit, je suis assuré par le système global puisque j'y ai cotisé.
D'accord.
Avoir des systèmes comme ça en disant les gens qui n'ont... C'est différent si vous avez payé votre vie la cotisation chômage et que vous vous en servez soudainement que quelqu'un qui s'en est servi 15 fois dans sa vie.
C'est d'autant plus vrai pour les cadres à qui on a dit dans la deuxième réforme ou la première, je ne sais plus, on vous laisse votre cotisation inchangée, par contre, vous aurez de la dégressivité à partir d'un certain niveau de salaire.
C'est parce qu'on a rajouté un système d'assurance, un système de solidarité.
Il y a un problème de lisibilité entre ce qui relève de l'assurance et de l'assurance.
Et je cotise et je suis assuré.
Bien sûr.
Soit on me dit, puisque vous êtes cadre, vous avez un taux de chômage plus bas que les autres et tout ça, vous devez être solidaire vis-à-vis des gens
Christian, c'est exactement ça.
Et là, c'est plus un système d'assurance, c'est un système de solidarité. Mais bon, ça, il y a une confusion importante.
Mais Christian a raison. Il faut disons les choses.
Disons les choses. Voilà. C'est un impôt. c'est un impôt sur le
dire que c'est des cotisations, voilà, si c'est un impôt.
Si c'est pas une assurance. Après, il y a juste un point quand même que je voudrais souligner, et ça a été dit, mais juste pour bien préciser, il y a le chômage structurel. Et le chômage structurel, quel que soit le mode d'indemnisation, vous ne le changerez pas, c'est des choses, l'éducation, l'adéquation entre l'offre et la demande, ça ne changera rien. Vous pouvez avoir un système très généreux ou pas, ça ne changera rien, c'est ce qu'on appelle vraiment le chômage structurel. Alors après, de dire qu'à côté de ce chômage structurel, il y a un chômage conjoncturel et qu'il y a un impact de l'indemnisation au chômage, l'idée derrière ça, c'est de dire qu'il y aurait des gens qui resteraient volontairement au chômage alors qu'il y a plein de demandes parce qu'on est trop bien indemnisé. Bon, bah ça, ce message, il peut passer éventuellement quand vous êtes dans une conjoncture solide, une forte croissance, mais il est totalement inaudible quand vous avez la conjoncture qui se retourne et que vous avez une remontée du taux de chômage. Et c'est tout le problème qu'a aujourd'hui le gouvernement, c'est que faire passer ce genre de message au moment où on vient d'annoncer que le taux de chômage est reparti à la hausse, c'est totalement inaudible. Ouais, donc on peut pas dire aux gens, aujourd'hui, vous êtes trop indemnisés.
J'avance. Sur l'histoire des effets d'aubaine, la première réforme était la plus technique. Elle s'attaquait au phénomène de la permittence et elle avait attaqué un sujet très, vraiment hyper technique qui consistait à modifier le mode de calcul du SJR, le salaire journalier de référence. Je vais pas rouvrir le sujet parce que... Mais en tout cas, c'était l'idée de mettre fin à...
Vous n'allez pas finir dans l'administration, quand même, Nicolas.
Non, mais ce sont des sujets qu'il faut regarder dans leur complexité pour les comprendre. Le fait qu'il y avait des gens qui, effectivement, pouvaient travailler pratiquement à mi-temps en un mois et avoir une rémunération proche de celui qui travaillait à plein temps grâce à ce système de salaire journalier de référence qui a été modifié. Christian Parizeau, la BCE, il y a 48 heures, dit aux banques d'Europe, évaluez bien le risque immobilier dans vos bilans. Évaluez bien le risque immobilier dans vos bilans. Si c'est nécessaire, montez vos fonds propres. Hier, Claudia Bush, qui préside le conseil de surveillance du mécanisme de surveillance unique, c'est le superviseur bancaire de la zone euro, dit aux banques, en deux jours, hein, les deux messages, attention, préparez-vous à l'inattendu. Alors là, il faut reconnaître qu'elle dit, hein, il faut absolument investir dans la résilience. Moi, je suis banquier, si on investissait dans la résilience. Il faut imaginer l'inimaginable. Alors géopolitique, climat, numérique, cybersécurité, démographie, répondre aux risques émergents, c'est un discours un peu... Et en fait, au bout du compte, elle dit, il faut avoir plus de liquidité. Est-ce que ces deux messages, bout à bout, en 48 heures, signifient que les autorités qui supervisent le système bancaire en Europe flippent un peu, à votre avis, Christian Parizeau?
Oh, flippent, c'est leur travail aussi. Hein. Ce sont des gens qui sont là pour surveiller les banques. Donc forcément, ils sont là pour essayer de déduire quelle sera la prochaine crise bancaire, sachant qu'ils vont forcément se planter. Mais
eux, ils vont forcément se planter.
Il vaut mieux crier au loup 10 fois, voilà. Ça, au cas où il arrive.
Oui. Voilà. mais après, on l'a vu aux États-Unis, il y a à peu près un an, on ne l'avait pas vu venir, cette crise bancaire. Là, aux États-Unis, on parle beaucoup du risque au niveau de l'immobilier commercial, puisqu'il y a un vrai risque, mais c'est surtout sur les petites banques américaines. 70% de l'immobilier commercial est détenu par les petites banques américaines, donc on se dit qu'au pire, ça fera quelques dégâts sur quelques banques. Mais
ça s'est passé il y a un an.
Voilà, ça sera
on
pas
en a eu
systémique.
Trois qui sont allés au tapis, voilà. Il n'y a
après,
pas eu d'effet
toujours,
systémique.
Le gros problème que l'on a avec le secteur bancaire, c'est qu'il peut y avoir un problème qui touche qu'une banque, qui est sur une exposition que d'une banque, mais c'est après ces effets contagion. Donc forcément, vous avez aujourd'hui des régulateurs qui sont pas confiants. Pourquoi ? Parce que faut voir, c'est qu'on sort d'une longue période quand même de remontée des taux qui a été particulièrement rapide, forte, violente, et que pour l'instant, on n'a pas encore vu les dégâts. Mais on sait que ça va arriver et que les dégâts vont être là. Et donc aujourd'hui, tout le monde est un peu sur les dents parce qu'on se dit où va être la remontée des taux de défaut, sur quel type de crédit. Aux États-Unis, on sent quand même qu'il y a un taux de défaut qui est en train de remonter, qui est sur les crédits à la consommation. Rien que pour vous donner un chiffre, les ménages américains devaient recommencer à rembourser leurs crédits étudiants, parce que ça avait été suspendu durant la période du Covid, et vous avez un taux de défaut de 40%.
40% de défaut.
Défaut. Pour l'instant, les Américains n'ont pas voulu. Alors, dans ces 40%, il y a à peu près la moitié qui disent qu'ils l'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas les moyens de rembourser. L'autre moitié, c'est parce qu'ils veulent pas rembourser, parce qu'ils espèrent que l'État va racheter leurs crédits. Enfin bon, il y a plein d'éléments qui jouent.
Il y avait eu cette idée à un moment qu'on va faire un write-off sur la dette étudiante.
Bon. Mais en tout cas, ça vous montre que quand même, il y a des situations un peu tendues.
D'accord.
Alors, c'est pas le cas en Europe. En Europe, on a plus des craintes, à mon avis, sur le tissu des petites et moyennes entreprises qui souffrent énormément. rapidement. Pourquoi ? Parce qu'elle souffre d'une part que les conditions monétaires se sont tendues. C'est beaucoup plus onéreux aujourd'hui d'avoir un crédit auprès de votre banque.
Clairement.
Et deuxièmement, c'est que un mouvement de désinflation, il touche pas de la même façon une grande entreprise qu'une petite entreprise. Et aujourd'hui, le gros problème, c'est que les petites et moyennes entreprises, c'est elles qui ont le plus la pression du mouvement de désinflation. C'est-à-dire que quand vous pouvez plus repercuter la hausse des prix, déjà, c'est les grandes entreprises, elles mettent la pression sur leurs fournisseurs. Et les fournisseurs, c'est elles qui n'ont pas les marges de manœuvre pour absorber ce choc, alors qu'elles étaient déjà dans des conditions financières assez tendues. Donc, il y a un élément à suivre. Quel est l'impact de la politique monétaire? On l'a pas encore vu totalement. Il va arriver. Et quel sera l'impact sur le bilan des banques. Et après, il faudra voir la solidité des banques et éviter tout effet contagion. Donc, je dirais que, oui, c'est bienvenu, mais on est obligé aujourd'hui d'être très prudent parce qu'il y aura forcément un coût de ce durcissement de politique monétaire.
Le message, c'est préparez-vous à tout parce qu'on n'a pas tout vu, si je résume ce que me dit Christian Parizeau, Guillaume.
Alors, trois éléments. La première chose, c'est quand les taux d'intérêt montent, c'est mauvais pour l'immobilier puisque les coûts de financement sont plus élevés et que l'immobilier, en termes de valorisation, c'est comme une obligation à très long terme. Donc, c'est l'inverse des taux d'intérêt. Les taux montent, la valeur de l'immobilier baisse. Deuxièmement, on a eu une période incroyablement longue de taux à zéro, c'est-à-dire grosso modo une petite dizaine d'années, dans lequel s'est engouffrée une spéculation immobilière. Quel est lieu pour le résidentiel, quand tout d'un coup on a payé deux fois plus cher le même appartement qui n'était pas mieux dans une petite ville, et à Bordeaux, tout ça s'est envolé.
À juste titre.
Dit le Bordelais de l'État.
Mais aussi dans la banlieue de Bordeaux. Troisièmement, les crises immobilières, ce sont les crises les plus graves. Quatrièmement, les banques, elles financent directement l'immobilier, donc ça touche tout le monde. Et les grandes crises bancaires sont toujours venues de crises immobilières. Cinquièmement,
il faut le rappeler, la composante immobilière est quasiment systématiquement dans les crises graves.
Cinquièmement, quand vous êtes responsable de la supervision bancaire,
vous criez au loup parce qu'il vaut mieux crier au loup.
Vous criez au loup. Et en France, on a une histoire tragique dans le passé, dans la grande crise de 90-93, notamment avec les ennuis du Crédit Lyonnais à l'époque. Le patron de la surveillance bancaire, je ne dirai pas son nom, mais le nom ressemble d'ailleurs tout à fait à celui de la dame allemande dont on a parlé. Il en est mort de cette grande crise bancaire. Il en est mort de chagrin. Tellement cette crise n'avait pas vu. Donc, c'est bien sûr dans la psyché. Aujourd'hui, la supervision bancaire est faite de façon très proche. La BCE a le droit d'assister au conseil d'administration des plus grandes banques. Oui. On est dans la scène de supervision. Alors, on peut dire que sur l'Europe, le risque est quand même bien moindre qu'aux États-Unis, puisque comme Christian l'a expliqué, aux États-Unis, il y a les petites banques un peu plus fragiles ont financé l'immobilier. Puis, un dernier phénomène sur l'immobilier, c'est que il y a l'immobilier de bureau, les gens veulent moins aller au bureau, et l'immobilier commercial, vous pouvez faire tout livrer à domicile dans les deux minutes. Donc vous avez vu qu'il y a un groupe bordelais là qui est dans la distribution, qui avait repris une partie des implantations des galeries Lafayette en province.
Et ah oui, j'ai vu ça ce matin, oui. J'ai pas retenu les noms.
Visiblement, enfin, je connais pas du tout le dossier, je ne fais que répéter ce que j'ai vu dans la presse, face à la discussion. Et donc l'immobilier, on parlait de structurel et conjoncturel, on a un problème conjoncturel, c'est les taux, on a un problème structurel, c'est comment sera l'immobilier.
Bon. Mais on n'a peut-être pas tout vu, effectivement, de l'infusion de la politique monétaire durcie aussi rapidement. Sur le crédit immobilier, c'est venu assez vite. Quelque chose à ajouter, Jean-Marc, par rapport à l'attitude du... Effectivement, le superviseur, il crie au loup, parce que s'il ne crie pas au loup, oui, il dira, mais pourquoi vous n'avez pas crié au loup ?
Le superviseur crie systématiquement au loup. Et avec d'ailleurs des formules très générales qui n'ont absolument aucune...
Investir dans la résilience, Jean-Marc. Investissez dans la résilience.
Oui. C'est plus un superviseur, c'est une agence de communication. Et donc, le véritable enjeu, je pense qu'il y a, pour moi, il y a deux choses importantes. La première chose, c'est effectivement la volatilité de la politique monétaire. Les taux d'intérêt sont descendus très bas, puis ils remontent très vite. Et les nouvelles règles comptables ont comme conséquence de donner une amplification à ces évolutions. C'est-à-dire qu'on est passé en mark-to-market, alors qu'on avait une comptabilité historique.
Et donc, ça fait très longtemps maintenant que le mark-to-market est...
Oui, j'entends bien. Mais je veux dire, je pense que les débats qui avaient eu lieu à l'époque sont toujours sur la place. Il y a encore des publications théoriques sur ce sujet, et je pense que les banques n'ont pas totalement mesuré l'ampleur de ces modifications. Mais non, parce que ces modifications, encore une fois, pourquoi ? Je vais la deuxième argument, mais pourquoi ? C'est parce que il y a quand même cette idée que le côté procyclique des nouvelles normes comptables ne peut pas être ignoré par les gens qui font ces normes comptables. Et donc, il y a un moment donné où une partie va être révisée. Et le deuxième élément, c'est le fait que, effectivement, par rapport aux périodes, on parlait de 1830 et tout ça, il y avait un juge ultime, c'était la quantité d'or. Là, maintenant, la quantité de dollars, la quantité d'euros, elle est illimitée. Il suffit que la Banque centrale le décide.
On sent une nostalgie chez Jean-Marc Zay.
Oui, absolument. Parce situation où c'est je sauve les banques et pas les banquiers. Et donc, il y a une forme d'arbitraire général derrière tout ça, auquel les banques elles-mêmes se sont habituées. C'est-à-dire, elles se disent, il arrive un moment où, quand on est systémique, on est sauvé. Donc, le véritable enjeu, c'est de passer une phase où on est une petite
c'est
banque.
C'est évident, Jean-Marc. C'est évident. Oui, quand on est systémique, on est sauvé.
Et donc, le véritable enjeu pour les banques, ça va être essentiellement d'atteindre le seuil où elles vont pouvoir négocier en position, c'est de la théorie des jeux, c'est-à-dire elles vont essayer de négocier en position de force avec la Banque centrale leur survie. Et donc je pense que il y a deux choses malsaines dans ce système. La première, c'est la non prise en compte de la réalité procyclique des normes comptables, et la deuxième, le fait que quand on devient systémique, de toute façon, on peut tout se permettre.
J'avais discuté ici même de la valorisation en valeur de marché avec Sylvie Matera, qui avait été au comité de Bâle au moment où ce sujet s'était posé, et elle dit objectivement, je suis plutôt opposé, j'ai été plutôt opposé, mais je pense qu'il faudrait en même temps, elle disait, je pense qu'il est difficile de faire machine arrière.
C'était une émission à laquelle je participais.
Oui, vous y étiez.
Parce que j'avais déjà soulevé le truc, elle a dit ça, et moi je reste sur la position. Je pense que la réflexion sur les conséquences du procyclique du mark to market n'est pas arrivée à son terme. Je pense qu'il faut encore poser
une question. Mais le débat est posé depuis tant d'années. On n'a toujours pas réussi à trancher l'histoire.
La valeur d'un.
Oui, Guillaume Dard.
Une banque qui aurait accordé un crédit à 25 ans à 1%.
Ce qu'elle
a fait il y a 3 ans. Quand les taux sont à 4,5%,
elle l'a stocké à 1%.
Quelle est la valeur théorique instantanée actualisée de ce crédit?
La valeur théorique actualisée.
Vous avez prêté à 1%, les taux sont à 4, c'est comme le prix d'une obligation, ça va varier. Donc je vérifie.
Quand on est à taux fixe, justement,
écoutez-moi, alors, regardez du côté emprunteur.
Oui.
Pour le prêteur, il a prêté à 25 ans à 1%. Mmh. Eh bien, ce crédit, il vaut, qu'est-ce qu'on dirait, au moins 40% de moins.
6, hein? Si c'est à 10 ans, c'est une sensibilité.
25 ans.
Alors, je n'ai pas en tête la sensibilité, mais
à mon avis, il vaut pas loin de la moitié en théorie. Alors, heureusement, on n'est pas allé au mark-to-market, parce que sinon, je voudrais dire que les banques, surtout les crédits qu'ils ont perdus, devraient constater une perte latente de au moins 30%.
D'accord.
Non mais après, je pense qu'il y a un autre point que moi je soulignais, c'est dans la réglementation, il y a un point très important.
La réglementation de qui? Parce
pas
que
la réglementation des banques.
Aujourd'hui. La bancaire, d'accord.
Il y a un vrai point de fond, c'est que plus on réglemente et plus on durcit la réglementation, plus on a des banques qui ne peuvent plus prendre de risques.
Ça a été discours des banquiers et des assureurs éternels pour qu'on leur lâche la.
D'accord, mais juste pour vous dire pourquoi ça devient dangereux. Non, je vais vous expliquer pourquoi c'est dangereux, parce que on le voit très clairement quand les marchés financiers connaissent des pointes de volatilité. On a les banques qui se retirent des marchés. Et on a un retrait de liquidité à ce moment-là. Et ça accentue la volatilité des marchés. Donc ça, c'est un des gros éléments qu'on a aujourd'hui, qu'on a un vrai problème. C'est où mettre la barre de la réglementation. C'est-à-dire que plus vous êtes strict sur la réglementation, plus vous créez des risques de retrait de liquidité sur les marchés, et plus vous augmentez le risque de marché. C'est pas intuitif comme ça.
Et encore plus sur les assureurs.
Vous ne permettez pas à ces acteurs, par la réglementation, de jouer leur rôle d'apport de liquidité et de prendre des risques. Donc on a un vrai problème aujourd'hui de la réglementation, c'est qu'on a une réglementation qui est très lourde et on est en train de chercher la prochaine crise. Et donc pour ça, on met des contraintes très fortes. On a de l'autre côté des banques qui, dès qu'ils voient, alors c'est l'avare, hein, la valuta de risque, dès qu'ils voient leur ratio exploser, et tout de suite ferment leur activité ou réduisent leur emprise, et ça crée des risques de marché. Donc moi je trouve qu'aujourd'hui on a un vrai problème à ce niveau-là de bien placer où est la
barre. C'est un débat qui est très ancien aussi, celui-là.
Mais on le reverra forcément.
J'ai entendu les assureurs hurler contre solvabilité pendant.
Pour compléter le bon propos de Christian, autrefois, quand il y avait une grosse crise en bourse ou sur le marché de la dette, les grands zinzins, comme on le disait, c'est-à-dire la Caisse des dépôts, et je pense qu'elle continue à le faire, et les grands assureurs, ils achetaient, si j'ose dire, ils disaient, c'est bien, le marché a un coup de déprime, il est justifié, pas justifié, mais il est souvent exagéré, et donc c'est un bon moment pour investir. Et inversement, quand il y avait une euphorie exagérée, ils avaient tendance à vendre. Donc ils avaient ce rôle contracyclique qui était nécessaire et qui donnait de la liquidité au marché financier. Aujourd'hui, comme l'a dit Christian, vous avez une technique qui fait « Ah, si ça bouge trop, au fond, on ne sort pas le parapluie quand il pleut ». C'est-à-dire que le parapluie, vous pouvez l'avoir comme ombrelle quand il fait beau, mais s'il fait mauvais, vous dites, ah non, c'est trop dangereux, on ne peut plus sortir. Et vous pouvez avoir les exagérations de crise, c'est-à-dire... On n'a jamais vraiment bien compris pourquoi il y avait eu la crise, le crack de 87, mais ces mécanismes-là, et on l'a connu en mars 2020. En mars 2020, le marché monétaire s'est bloqué. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de financement. Et il a fallu une dizaine de jours à la Banque Centrale Européenne pour redonner vraiment la liquidité dans le système. Mais ces mécanismes qui sont là pour être prudents, ben vous conduisent à ce qu'il n'y ait pas de pompiers quand il y a un incendie.
Les bons vieux débats, hein.
Et oui, non, c'est des... enfin, pour me permettre un jeu de mots.
Allez-y.
Je dirais que l'avare rend avare. L'avare rend avare. C'est-à-dire que l'avare fait. L'avare sur le risque fait que les gens se retirent du marché. Et donc, tous ces gens qui ne rêvent que de communication, je leur cède ce slogan.
D'accord. L'avare, la variation.
Oui, l'avare rend avare.
On a 5 minutes 20. Le Conseil d'État a chargé l'ARCOM, le gendarme des médias, de veiller au pluralisme et à l'indépendance de la formation après un recours qui a été engagé par l'ONG Reporters sans frontières contre CNews. RSF considère que CNews est un média d'opinion. Alors, je ne sais pas ce que RSF pense de France Inter, par exemple. Et donc, le Conseil d'État considère que le décompte de temps de parole des personnalités politiques, ça ne suffit pas. Et qu'il faut y ajouter les prises d'opposition, y compris les prises d'opposition des chroniqueurs que je suis, par exemple, ici, des animateurs que je suis, par exemple, ici, des commentateurs que vous êtes, Jean-Marc Daniel. Alors, bon, nous, on n'est pas vraiment sur un terrain purement politique, on est sur un terrain économique. Il va falloir nous mettre dans une case, il va falloir dire si on est quoi, ceci ou cela. Je ne sais absolument pas comment l'ARCOM va mettre en place la panoplie d'outils. Parce qu'à un moment, il faut pouvoir répondre avec des outils aux demandes du Conseil d'État. Guillaume Dard, ça vous inspire quoi ? D'abord, cette usine à gaz, parce que c'est une usine à gaz. Cette volonté d'attaquer un média en particulier. Alors, je suis assez surpris quand même.
Effectivement, on a un peu le sentiment que la montée du succès de CNews provoque une attaque un peu en piqué.
Ouais, ça énerve beaucoup.
Et ça a toujours existé en France quand tout d'un coup, quelqu'un se met en avant, et il est attaqué. Alors, deuxièmement... ce qui est très difficile dans l'histoire de la diversité, que veut dire la diversité ? La diversité, ça veut dire qu'un homme, une opinion, c'est-à-dire qu'on doit dire il faut avoir autant d'opinions, il faut que toutes les opinions soient représentées, ou est-ce que, comme on est dans un pays démocratique, elle devrait refléter l'opinion de l'électorat ? C'est-à-dire que, et donc le paradoxe, c'est qu'on pourrait dire, bah alors si vous êtes le Rassemblement National, vous allez avoir le droit à 30% du temps d'audience, et que si vous êtes socialiste, vous aurez le droit à 2,5%. Je ne pense pas d'ailleurs que ce soit ce que veut le Conseil d'État. Bon, alors après...
Non, le Conseil d'État, ils veulent qu'on ajoute au temps de parole des politiques qui est déjà calculé, le temps de parole de toutes les autres intervenants d'un média.
Mais de tout le monde. Donc ça veut dire un homme, une voix, autant d'avis, autant de...
Je ne vois même pas comment on fait.
Où est-ce qu'on est dans une démocratie ? La deuxième chose... Et c'est un débat, et relisez Tocqueville et Chateaubriand, c'est-à-dire que l'opposition des parlements, entre guillemets, ce qu'on appelait parlement dans l'Ancien Régime, c'était en fait les corps constitués, les tribunaux,
les juges.
Oui. Et donc, le combat entre les juges et le pouvoir, c'est un combat permanent en France, c'est-à-dire que quand Louis XIV, finalement, a grosso modo éliminé le pouvoir des parlements, et puis il est revenu, le pouvoir des parlements, à la fin au milieu du règne de Louis XVI, où il y a eu une opposition très très forte, et on a débouché... Et d'ailleurs, c'est un paradoxe que souligne Chateaubriand. Les parlements ont voulu qu'on remette les états généraux. Les états généraux, ils ont guillotiné et les partis au pouvoir et les parlements. Hein, et les parlements. Donc, la séquence-là, c'est-à-dire du pouvoir... c'est un peu philosophique, Nicolas, mais ça peut entraîner une crispation. C'est-à-dire que la détermination par... les juges, entre guillemets, qui sont des hommes, j'imagine, pétris de bonnes intentions. Mais enfin, c'est un peu du Pascal. Qui veut faire l'ange fait la bête. Et le risque de créer une opposition au mouvement populaire, c'est un peu pré-révolutionnaire.
Il y a Daniel qui me dit « Heureusement que vos invités ont élevé le niveau du débat sur la SNCF ». Oui, vous avez raison d'élever le débat sur la SNCF. On a 1 minute 40, une réaction à cette histoire, Jean-Marc, Daniel.
Non, mais en très peu de mots.
Mais encore une fois, je ne sais pas comment on fait. D'abord, comment on fait.
Non, mais en très peu de mots, le Conseil d'État, soit il s'appuie sur le cahier des charges, effectivement, c'est-à-dire que, et c'est d'ailleurs en partie le cas, c'est-à-dire il dit à l'ARCOM, faites en sorte que le cahier des charges qui a permis à CNews d'émettre sur la chaîne sur laquelle elle émet, sur la fréquence sur laquelle elle émet, est bel et bien respecté. Bon. Et à ce moment-là, on peut considérer que le Conseil d'État est dans son rôle. Mais là où je rejoins Guillaume, c'est qu'il y a depuis quelque temps cette idée dans le pays qu'il y a une espèce de prise de pouvoir par les juges sur la base d'un certain nombre de volontés d'afficher des opinions eux-mêmes. Ça va depuis le mur des comptes du syndicat de la magistrature, ça va depuis le fait que le ministre garde des Sceaux a été poursuivi par ses propres troupes, ça va du fait que effectivement le Conseil constitutionnel a été accusé d'avoir démoli la loi qui avait été votée par le Parlement à l'occasion de l'immigration, et que le Conseil d'État, notamment au moment de la Covid, avait pris des positions qui étaient des positions qui heurtaient directement les décisions du pouvoir en place.
Oui, c'est vrai.
Et donc je pense qu'il y a un problème de légitimité pour le pouvoir judiciaire au sens large, la justice administrative, Conseil d'État, la justice judiciaire traditionnelle au travers des juges du mur des cons. Il y a un problème de légitimité, et je crois qu'il faut qu'ils se méfient les juges, parce que si on commence à ne plus faire confiance en la justice de son pays, vous savez, la formule « je fais confiance à la justice de mon pays » qu'on utilise, si on commence à perdre cette confiance, effectivement, c'est quand même un pan entier de la société qui devient menacé. On parlait d'insécurité, si là, c'est vraiment
de
la sécurité.
Le général de Gaulle disait « c'est une autorité ». Il n'y avait pas un autre pouvoir, c'était une autorité.
On en restera là, on n'a pas le temps de continuer. Je ne peux pas vous faire réagir, malheureusement, Christian Parizeau. J'avais 2-3 autres sujets, mais qui seront valables demain. Merci d'avoir élevé le débat à vous trois. Guillaume Dard, Jean-Marc Daniel, je vous rappelle donc pour l'écho, le numéro du mois de février, crise du logement, à quand la fin des travaux? Et Christian Parizeau, rendez-vous demain à 9h, jeudi, jour du Cercle des économistes.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.